Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec ma chère Sophie Avon. De Sud-Ouest, Eric Neuf du Figaro, Pierrot Pierre Murat de Télérama, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et d'une heure en série dont nous sommes tous des adeptes le samedi soir à 20h sur notre chaîne. On parle évidemment ce soir du nouveau James Bond, mais aussi de Sean Penn, des frères Larrieux, de Balzac version Marc Duguin, et des films de Joachim Lafosse, Samuel Benchetrit et Christophe Honoré. Et dans le courrier de la semaine, il y a évidemment une dune de lettres et de mails à propos de Dune, un film qui d'ailleurs partage de manière assez radicale nos auditrices et auditeurs. Certains évidemment ont adoré, et d'autres, plus nombreux que je ne l'aurais pensé, détestent. Alors je ne vais pas tout vous lire, et je demande déjà à ceux qui ne seront pas retenus de bien vouloir m'excuser, mais c'est impossible, je vous le disais, de lire autant de courriels. Comment, se demande Michel Essertier de Lyon, les critiques du masque ont-ils pu échapper à l'extrême poésie du film de Villeneuve, le mystère reste entier. Ève nous écrit comment être passé à côté d'une jolie balade dans d'autres mondes, bien fichue, en compagnie d'un petit prince absolument charmant. Bon, mais je vous aime quand même. Car pour Loïc, Dune permet de satisfaire aussi bien les non-connaisseurs du roman que les inconditionnels de la SF. Pour Sébastien, 38 ans, dont 30 de Masque et la Plume, Denis Villeneuve, comme Christopher Nolan, est le digne héritier de Kubrick ou de Coppola. Ils font des films d'auteur à grand spectacle et vous passez à côté, que je vous plains. Sans rancune, je vous pardonne ce moment d'égarement. Un film superbe, selon Isabelle Zabico. C'est l'adaptation d'une œuvre complexe, absolument réussie, mais les critiques n'ont clairement pas lu le livre. Vous n'aviez pas lu le livre, les uns et les autres ?
Bah, sûrement non. Pas.
On a qu'une vie, oui, c'est ce que j'allais oui, dire. Ça va, bah,
j'ai commencé, mais non.
Et Romain Lisée, qui parle d'une tragédie grecque se déroulant dans un lointain futur, n'a pas aimé que Xavier qualifie Timothée Chalamet d'ectoplasme. Chalamet, dont notre auditeur a trouvé au contraire l'interprétation très nuancée.
Ah. Très translucide.
Ah, oui. Alors ce n'est pas l'avis d'Emma qui trouve Dune d'une abominable lourdeur. Explicatif, mal joué. Chalamet me rappelle, nous dit Emma, les mécheux ridicules à la sortie des lycées. Et pendant tout le film, j'ai ressongé avec colère et délice à la version tellement plus riche, plus poétique et délirante de Lynch.
Non,
ça,
non,
faut pas exagérer.
Non, n'exagérons pas. Exagérer.
N'empêche que Frédéric Cabuzel trouve aussi, contrairement aux Dunes de Villeneuve, celui de Lynch complètement fou, baroque, et surtout, il s'intéresse au personnage.
Ça va être le nouveau snobisme, tu vas voir.
Mais de
préférer le premier.
Mais le Lynch. Car les films de Villeneuve, vous l'avez compris, a aussi ses détracteurs. Une exposition longue et didactique, selon Damien Vabre. Le souffle épique reste timide, Chalamet manque de charisme et n'est pas bon dans ce rôle. Pour Jean-Luc Clairet, Dune est une purge qui, après Blade Runner 2049, semble avoir achevé de diluer le grand talent de Denis Villeneuve. Il n'y a rien d'intéressant non plus dans le très surestimé roman d'origine. Comme on disait jadis, un corneau, vous n'en ferez jamais un pur sang. Pascal Hénard de Bourg-les-Valence n'a pas supporté la musique assommante de Hans Zimmer et résume Dune ainsi, un cinéma froid pour une histoire dans le désert. Pour François de Dijon, Dune est une déception, trop long, trop manichéen et Chalamet trop plat. Non, monsieur Villeneuve, ajoute Alexandre de Paris, Dune n'est pas une marque de lotion capillaire. Alors pourquoi nous infliger ces plans interminables sur la chevelure de Timothée Chalamet sur fond de paysage immaculé ? Ce film ressemble à une publicité pour station balnéaire. C'est beau, propre, mais sans vie. Enfin, Vincent Lemonnier éclaire, j'ai détesté ce film. Au-delà du discours douteux sur le sauvetage des nations orientales nomades par des beaux occidentaux, le principal reproche que je ferai au film est son côté désincarné. Aucun personnage ne paraît suffisamment humain pour susciter l'empathie. Voilà, on voit que la guerre est déclarée, hein, ça va être, c'est digne d'une présidentielle, hein, pour ou contre d'une. Allez, on commence précisément avec « Mourir peut attendre », signé Kari Joji Fukunaga, la 25e adaptation de James Bond, le personnage, vous le savez, inventé par Ian Fleming, et la dernière, avec le 6e titulaire du rôle de 007, l'espion de Sa Majesté, Daniel Craig. Un film de 2h45, où notre agent secret croit être rangé des voitures et pouvoir se reposer à la Jamaïque, 5 ans après avoir goulé à Matera dans les Pouilles avec Madeleine Swann, je veux dire Léa Seydoux. Mais voici que son ami de la CIA, Félix Leiter, l'appelle à l'aide pour libérer un scientifique qui vient d'être kidnappé par le Spectre, avec une nouvelle recrue incarnée par Lashana Lynch et affublée du même 007. Il va affronter Rami Malek dans le rôle du méchant. Il est d'ailleurs surnommé Lucifer, patron d'un labo high-tech situé sur une île déserte où se prépare une terrible arme bactériologique. Le seul problème, c'est que, en tout cas pour moi, il n'a absolument rien de méchant. Alors, vous allez m'expliquer comment un très méchant... Tu te trouves très méchant, toi ?
Oui, effrayant, oui.
On a un peu de tous les méchants.
Le film passe donc par Cuba, la Norvège, l'Italie, la Jamaïque, Londres, évidemment. La musique est signée Hans Zimmer. Eh oui, le même que Dune. Avec en prime une chanson de Billy Eilish. Alors, est-ce qu'il faut courir voir ce James Bond très long et très crépusculaire? On va commencer avec Sophie.
Merci du cadeau. J'ai pas trouvé ça forcément très déplaisant, mais il y a beaucoup de choses qui me gênent dans le film, et notamment deux choses. La dimension ludique du film me paraît avoir complètement disparu. Alors, Daniel Craig n'est pas un joyeux de riz depuis le début, ça, on le sait, mais là, il est particulièrement sinistre. Et finalement, tout ce qui est...
Il ressemble de plus en plus à Poutine. Enfin, dans celui-là, c'est...
ben, il a vieilli. C'est le deuxième problème du film.
Plus vrai, Poutine qu'il y a...
Parce que...
Il nous rase, Poutine.
Je veux bien qu'on y fasse... Enfin, la deuxième chose qui me gêne, c'est que c'est vraiment, on a affaire à un truc fourre-tout, où on a l'impression que, comme c'est un final, on nous met vraiment de tout, on en met le plus possible, on nous remplit la barque, on nous remplit... Avec de tout, pour satisfaire tous les publics, pour...
Avec de bonnes scènes d'action, je trouve.
Mais il y a des bonnes scènes d'action, c'est graphique, il y a des choses qui sont assez belles, et puis Fukunaga, c'est pas un manchot, il a fait Signe nombré qui était un film assez beau, et c'est vrai que c'est, de ce point de vue-là, c'est maîtrisé. Mais les scénaristes, enfin, vraiment, le font faire. Je trouve qu'ils transforment même les personnages en marionnettes à force. Moi, j'ai rien contre le fait que notre ami James Bond tombe amoureux, mais à condition que le couple qu'il forme avec Léa Seydoux soit un peu crédible. Enfin, moi, je trouve que ce couple, j'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai le sentiment que les scénaristes eux-mêmes n'y croient pas beaucoup, parce que finalement, ils sont assez vite séparés, et ça se passe au début. Donc, on a l'impression que les scénaristes, la production, ont ployé tellement le film pour essayer de répondre finalement aux injonctions, aux attentes de l'époque, que je trouve ça très bien quand il s'agit d'aller contre les stéréotypes de personnages. Mais si c'est pour les remplacer par d'autres stéréotypes et de faire un peu n'importe quoi, de rendre les choses finalement très contradictoires et sans ambivalence, mais au contraire juste pour répondre à un marketing, je ne me fais pas d'illusions sur le film. Je sais bien qu'il faut qu'il remplisse et qu'il coche les cases. Mais il y a un moment où on a besoin quand même de se raccrocher à quelque chose un peu cohérent. Et je trouve que le film, il met de tout et finalement, il perd sa cohérence.
J'aimerais bien d'ailleurs un jour faire un masque et la plume cinéma.
Rien qu'avec les jeunes.
Sans un film avec Léa Seydoux, c'est devenu quelque chose d'incroyable.
Ça va être compliqué.
Ah, non, mais
ah ouais, compliqué. Ça va être difficile parce qu'elle est à peu près partout.
Oui, oui, mais c'est entre 2 et 3 films par semaine maintenant.
Oui.
Alors, Xavier.
Moi, j'attendais ce 5e épisode, ce final de l'ère de Daniel Craig, dont j'avais tant aimé Casino Royale et Skyfall.
Skyfall, c'est magnifique.
C'est les deux meilleurs. Hein.
Voilà. Je me disais, chouette, c'est un numéro impair. Donc, comme les seuls réussis étaient les numéros impairs, on a une petite chance. Et puis, patatras, quoi. C'est-à-dire que... Alors d'abord, les spoilers qu'on nous interdit de révéler, c'est tout à fait normal.
Ah non, c'est normal, ça.
Non, mais bien sûr, mais ils avaient filtré et sur Internet depuis 2 ans. Enfin, je veux dire, on savait tout depuis le début. Mais Sophie a raison, c'est-à-dire qu'ils brassent beaucoup de choses. Bizarrement, ils sont allés chercher de vieilles figures ancestrales, archétypales, un peu typiques de James Bond. D'ailleurs, tu as cité la chanson de Billie Eilish, mais le film se termine par la chanson de Louis Armstrong, voilà, qui était au service secret
de la Majesté. C'est ça qui est très important.
Donc, il y a une espèce de... Oui, parce que c'est le James Bond où il tombait amoureux.
Et ben oui.
Il épousait Diana Rigg, voilà.
Ben oui.
Assassiné
mais
par
ça change Zavallas.
Mais non, ça change pas tout. Encore une fois, c'est une intention. Il faut regarder comment le film est fait. Moi, je trouve la mise en scène, elle est pataude. Il y a des problèmes d'amorce dans la plupart des scènes d'action qui sont vraiment des problèmes, c'est-à-dire des secondes qui ne devait pas y être parce qu'elle ralentisse l'action. Et puis pourquoi elle est nous chercher, nous déterrer, c'est-à-dire c'est la nuit des morts vivants, c'est Walking Dead, le savant russe avec accent qui semble dater mais de l'ère
mais ça existe
très jeune connerie, non ça n'existe pas.
Mais qu'est-ce que t'en sais
de clichés de caricatures?
Qu'est-ce que t'en sais sur les
tu parles à un connaisseur,
peut-être que toi
tu parles à un connaisseur.
Non mais on n'est rien
du russe, pas des savants,
savant russe,
on dirait quand même un vieux cliché
Xavier. Alors là
60, on a une James Bond girl. Je parle pas de la nouvelle 007 qui cumule vraiment tout le politiquement correct possible.
Oui, ça sable. Je pense qu'elle a été inventée pour
on
ça.
On a une nouvelle James Bond girl, Ana de Armas, si mes souvenirs sont bons, belle cette année. Alors, elle, dès qu'elle voit Daniel Craig, et pourtant, il ne reste pas grand-chose de Daniel Craig, elle fait tout tomber. Oh mon Dieu!
Elle est superbe!
Je suis désolé. On essaye de nous voir. C'est comme dans les films de Clint Eastwood. On essaye de nous faire croire qu'elle est en train de mouiller sa culotte parce qu'elle a croisé le regard de Daniel Craig. Arrêtons. Alors, effectivement, elle a droit à une scène de combat sublime, mais le rôle, si vous allez faire pipi, n'allez pas à ce moment-là, vous ne la verrez plus. Donc, il y a un moment, c'est quand même. Et alors, Daniel Craig, dont moi j'aimais bien le détachement par rapport au personnage de James Bond qui avait un côté là, il se baisse même pas pendant les scènes de fusillade. Non mais c'est bon, c'est le dernier. Moi je prends ma retraite, là, si vous pouvez faire vite, s'il vous plaît, les mecs. Donc il traverse ça. Alors heureusement, il a face à lui quand même des bras cassés, des manchots qui tirent dans tous les sens. Lui, une balle, 10 personnes mortes. Il y a un moment, mais c'est non, comme mais c'est à la grande époque. Oui. Mais c'est même pas Sean Connery, c'est Roger Moore, c'est-à-dire les pires. Ce auquel on ne croyait absolument rien. Il y a une indifférence au personnage, mais qui n'est plus intéressante du tout. Et Léa Seydoux, bah, elle a appris à jouer avec la gorge. C'est-à-dire qu'elle fait tout comme ça. On est ravis pour elle, mais
aucun de vous ne parle quand même de ce qui m'a semblé le plus accablant, c'est le temps. Non, mais c'est le temps.
Oui,
2h45.
Madeleine Swann, le temps perdu.
Ah. Bon, Eric.
C'est bien le problème, c'est que Daniel Craig s'en va, mais c'est des adieux à la Maurice Chevalier, là. Il revient sur scène pendant 3 heures, le gars. Mais il y a un très mauvais signal, c'est qu'ils sont 4 ou 5 scénaristes à s'être mis sur le coup. Donc ça sent déjà très mauvais.
Ils ont toujours été ça.
Ah oui, là, c'était pas les bons. Hein. Et surtout, ils ont effacé toutes les aspérités de James Bond. C'est devenu d'un politiquement correct absolu. Là, c'est l'espion qui rentre chez Bobonne le soir. Ils ont voulu en faire le commissaire Maigret. Alors, on ne sait pas si Léa Seydoux va lui préparer des ragoûts, du fricando. Ça, c'est le gros suspense du film.
Non, Léa Seydoux ne cuisine pas. Non.
Il rencontre la fameuse cubaine là, qui est belle à se damner. Alors là, il ne se passe rien du tout. Hein. C'est pas question qu'il l'approche. Heureusement, on retrouve la Aston Martin gris métallisée, là, celle des débuts, qui est fabuleuse. Mais je suis sûr qu'ils en ont fait une bagnole hybride pour être dans l'air du temps.
Et Pierre s'énerve. Hein. Pierre est très.
Il y a quand même le parcours obligé. Il y a la séquence où on entend Bond, James Bond, ça en est droit. Il se tape. Il trempe ses lèvres vaguement dans la vodka martini, parce que c'est comme le film, hein, c'est à consommer avec modération. Et on voit que c'est un garçon devenu très sage, parce qu'on aperçoit la bouteille de vodka sur le comptoir, et c'est d'une marque terriblement bon marché. Donc il ne fait plus du tout de folie. Et c'est un film où on regarde sa montre, et c'est vraiment le cas de le dire, puisque dans les salles, avant le film, ou les autres films, il y a une publicité pour une marque de montre de James Bond, et on a en condensé toute la bande-annonce et tout ce qu'il y a dans le film, parce que les scènes d'action, on les a déjà vues en mieux. Les autres scènes, qui sont des scènes d'inaction pure, qui ne servent à rien, et c'est très triste. Alors, je pense que le remplaçant de Daniel Craig, ça va être Sandrine Rousseau la prochaine fois.
Non mais c'est une telle mauvaise foi. Moi je veux dire, mais ça, vous détestez James Bond, ce qui est votre.
Mais droit. Ça n'a aucun mais rapport. On a cité votre ce qu'on aimait
c'est
avant.
Votre on adore.
Ah, arrête, on arrête. Ah, il n'y a pas d'argument.
Parler ou
c'est
pas vrai.
Si. Non mais on aime James
Bond. Vous n'aimez pas James Bond. Vous gardez le souvenir c'est de trucs que vous avez aimés sans avoir revu les films. Et maintenant, si vous les revoyez, vous les aimeriez plus.
Qu'on a
mais non. Alors, je reconnais que c'est long, Jérôme. C'est long. Oui. Et c'est long. Et à cause. Pardon, c'est pas la.
C'est plus long que Dune.
C'est pas l'actrice.
C'est plus long que Dune.
C'est aussi long que Dune, non? Enfin bon, à 5 minutes près.
C'est aussi.
Alors là, je m'emmerde beaucoup moins à James Bond qu'à Dune. Alors ça, il faut être clair, net et précis. Non, mais je crois que le grand problème du film, c'est et c'est pas l'actrice, mais c'est les scénaristes, là je reviens, je te donne raison, qui ont fait du personnage de Léa Seydoux, parce que Léa Seydoux est là justement pour embourgeoiser James Bond. Donc on a droit à un premier fantasme, enfin souvenir, qui n'est pas intéressant. Et d'ailleurs la preuve, c'est qu'à un moment donné, il est furieux, il la fout dans un train, et c'est là que le film commence. Et là, il y a l'épisode de Cuba. Alors là, je suis désolé, c'est formidablement fait, c'est formidablement filmé, c'est formidablement monté, et justement le personnage de Anna de Armas.
Qu'est-ce que t'as ce soir là?
C'est le personnage de Anna de Armas est très intéressante parce que justement elle amène cette fantaisie qui manque à Léa Seydoux, et là brusquement ça devient. Alors, c'est pas parce qu'ils couchent pas ensemble, ça te manque Xavier, mais c'est pas très grave.
T'as vu comment elle est écrite?
Je finis et je trouve que là on retrouve toutes les l'intérêt de James Bond. Et la dernière chose pour finir, la musique est de Hans Zimmer, mais aussi de Jane Barry, parce qu'il y a la chanson et la musique d'Au service secret de Sa Majesté. Et il est évident que ce qu'ils ont voulu faire, c'est un James Bond romanesque et romantique. Alors, vous n'aimez pas le romanesque, vous n'aimez pas le romantisme.
Mais on n'aime pas Cuba, on n'aime pas les montres de luxe. Ok, d'accord, on a besoin d'y croire.
On a besoin d'y croire.
Est-ce que vous voulez qu'on évoque d'autres films ce soir ou pas?
Oui, pardon.
Mourir peut attendre. Moi, je salue le courage de Pierre qui était seul à vous affronter. C'est signé Kari Joji Fukunaga. Au Festival de Cannes, il faut dire qu'on ne s'était pas vraiment remis en 2016 de son film The Last Face, qui est quand même pour moi un des plus grands cauchemars.
Oui.
Du festival.
Ah, mais c'est drôle à voir.
On a bien ri.
C'était drôle.
Il y avait quelques répliques. Ah si.
Ah oui.
Ça n'est pas parce que tu me pénètres que tu me connais. Moi, je suis désolé, mais je ne l'ai jamais oublié.
J'avais oublié ça.
Il a une mémoire incroyable.
Dans le camp.
Non, dans l'hôtel de luxe où ils se sont reposés parce que ce sont quand même.
Bah, c'est la réplique qui manquait dans le James Bond.
Ils s'engueulent, réveillant tout l'hôtel, et elle se retourne vers lui, elle lui dit : ce n'est pas parce que tu me pénètres que tu me connais. Et philosophiquement, c'est intéressant.
Donc ça, c'était The Last Face.
Donc on doit faire bref.
Et je voudrais qu'on parle du nouveau film de Sean Penn qui s'appelle Flag Day, donc qui était à Cannes, où il joue un père délinquant, assez charmant d'ailleurs, totalement mythomane, qui passe sa vie à dissimuler à sa propre fille, qui est jouée par Dylan Penn, donc sa fille, ses larcins et ses braquages de banque, laquelle fille est journaliste et doit comme par hasard enquêter sur une opération de fausse monnaie que son père a commise. Il y a même d'ailleurs dans le film le fils, Hopper Penn, que je ne connaissais pas. Bref, c'est une histoire de famille qui dure 1h50. Pierre.
Alors, je vais être très très bref là, mais vraiment pour le coup, parce que c'est très nul, c'est d'une mièvrerie épouvantable. J'ai passé, heureusement...
C'est pas du niveau quand même du précédent, franchement.
C'est un peu mieux que le précédent. Difficile de faire pire quand même. Non, mais là, j'ai passé mon temps à admirer vraiment Sean Penn, l'acteur, parce que je trouve qu'il fait à l'américaine un personnage qui est tout à fait intéressant. Malheureusement, il est englué dans une histoire de père, de fille, avec des flashbacks, c'est mièvre, c'est absolument n'importe quoi. Il y a des scènes hystériques.
C'est pas très crédible.
Ça voudrait rappeler un petit peu le Tennessee Williams dans les scènes de famille un peu hystériques, la ménagerie de verre, des trucs comme ça. Il se plante totalement. La fille est pas très bonne, donc je fais court, n'y allez pas.
Eric?
Ah, je trouve que tu es très sévère parce que le film est classique en diable, mais c'est quand même la résurrection. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le père et la
tout
fille,
ce qu'il faut pas, surtout,
les flashbacks. Non, mais peut-être pour toi. C'est une lettre d'amour de Sean Penn à sa fille. Il se fait pardonner un tas de choses, peut-être aussi dans la vie.
Comme
le père du film, qui est un mythomane de première, et qui est un gars très marrant, à la fois horripilant et très charmeur. Mais l'avoir comme père, ça doit être l'enfer pour cette gamine qui sombre dans la drogue, et heureusement qui est sauvée par le journalisme. Ça, c'est tellement américain aussi, de penser que le journalisme...
Bah toi, c'est ce qui t'a sauvé, hein.
Mais de quoi? Et non, j'ai trouvé que ça... J'aime un petit peu moins les paysages, le lyrisme à la Malick de temps en temps, mais le personnage du père, qui est un type complètement dingue, qui invente un truc absolument improbable, un étireur de jeans, parce qu'il trouve que les jeans qu'on achète sont jamais à la bonne taille. Évidemment, ça foire lamentablement. Il ouvre une boutique de photocopieuses, c'est aussi le désastre. Et il y a une scène marrante comme tout. Il fait croire à sa fille qu'il lui a acheté la dernière Jaguar. Et il lui dit : j'appelle le concessionnaire. Et le téléphone n'est pas branché.
On le sent devenir de 3 minutes et demie, hein, quand même.
Enfin, bah, t'es bon comme scénariste.
En tout cas, maintenant, ils savent.
Le film est tout à fait honorable. Et la performance de Sean Penn, qui, quand il veut, est un très, très bon acteur, se révèle payante.
Sophie.
Non, moi, j'ai pas trouvé ça honorable du tout. Je trouve ça même irregardable. C'est étonnant parce
Tu vas jusque là.
Ah oui, j'y vais jusque là. Je suis d'accord avec Pierre.
Irregardable.
Alors, le mot est peut-être un peu. C'est mieux que le précédent, un tout petit peu mieux. Il y a vraiment quelque chose qui me déplaît fondamentalement dans le film sur cette histoire douloureuse de père défaillant et de fille qui arrive en Scylla et qui aime son père et qui va de désillusion en désillusion. Je trouve qu'il en fait des tonnes, mais à la fois comme réalisateur, mais aussi comme acteur. Je trouve qu'il est d'une complaisance, d'un narcissisme. Alors, le personnage, c'est difficile de jouer un personnage aussi pitoyable, aussi narcissique, parce que le personnage est comme ça. Mais lui-même, on sent qu'il a...
il est à la fois pitoyable et flamboyant.
Il est les deux. Il est sympathique. C'est-à-dire que comme c'est un Peter Pan et qu'il ne veut pas grandir, évidemment, il est charmant. Mais très vite, il devient, je trouve, plus pitoyable qu'autre chose. Mais du coup, je trouve que Sean Penn en fait lui-même tellement que ça confine à la complaisance. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, c'est plus regardable. Parce que de cette histoire qui est douloureuse, je trouve qu'il la dépossède de toute sa tragédie. Parce que chaque fois qu'il essaie de filmer la tragédie ou qu'il veut filmer la tragédie, il ne filme pas la scène. Il filme l'idée qu'on a de la tragédie. Ça s'appelle un cliché. Et c'est sans arrêt ça. Donc, je ne veux pas parler de la fin. Enfin, on ne peut pas révéler la fin. Mais la fin, à cet égard, c'est vraiment impossible de mettre en scène de cette façon ce qu'il fait là, à la fin du film. C'est ça que je trouve pas insupportable.
Il faut découvrir que Sean Penn n'est pas un cinéaste de la légèreté et de la nuit.
Non, mais quand même, ces films, les premiers films,
les premiers films n'étaient pas excellents. Regardez.
The Pledge et Crossing Guard, c'était quand même pas mal.
Pour le deuil.
Je suis ravi que vous en ayez. Moi, j'ai pas de bons souvenirs de films de Sean Penn. Effectivement, le dernier était profondément raté. Celui-ci, il est un peu moins. Il est son propre ennemi. Parce qu'il
n'a rien à voir avec le précédent.
Il a un très, très beau sujet, puisque c'est une histoire vraie, comme l'a rappelé Eric Neuf à juste titre, et qui donne naissance au titre. C'est-à-dire que Flag Day, c'est le 4 juillet, c'est le jour donc où l'Amérique se célèbre elle-même et restaure son image. Et c'est l'histoire d'une fille qui a face à elle un père qui tente constamment de restaurer son image face à un public, soit les Américains, soit sa fille, qui espère effectivement qu'un jour, il sera enfin à la hauteur des espoirs paternels, nationaliste, patriotique. Et je trouve que l'idée est très belle, mais elle vient sans doute de l'essai, du roman autobiographique de la jeune écrivaine. Mais je trouve ça magnifique, cette idée qu'effectivement, une fois par an, les États-Unis essayent de redorer leur blason. Ce père revient constamment dans la vie de cette fille en essayant lui-même de redorer ce blason. Et elle a envie d'y croire. C'est ça qui est très beau. Alors que son parcours l'a mise ailleurs. Donc je trouve que l'idée, elle est maltraitée, hélas, au montage qui est très frénétique, très insistant. Il y a un très joli moment qui vient encore du livre, mais qui est sauvé parce qu'à ce moment-là, la caméra s'arrête à tout petit peu, le moment où il raconte que quand elle était petite, elle décrivait à son père un motif du décor, alors là je crois que c'était une pancarte publicitaire, et que de dos il dessinait rien que sur les indications de sa fille, le dessin, la figure qu'elle était en train de regarder. Et ça je trouve quand une minute, on décrit la possible relation fusionnelle entre un père et une fille de façon superbe. Mais encore une fois, ça fait partie du livre et il faut se fader la très mauvaise mise en scène et l'interprétation un peu lourdingue de Sean Penn.
Voilà, et je précise à nos auditeurs qui évidemment ne peuvent pas voir la scène du théâtre de l'Alliance française que ce soir Xavier a mis sa veste de chasseur de gros gibier et qui y voit très bien d'ailleurs.
Absolument.
Le film c'est Flag Day de Sean Penn. Si vous aimez Eric Neuhoff, allez voir ce film. Des réactions sur ce film?
Ça va pas faire beaucoup d'entrées.
Non.
Mais toi tes films font beaucoup de sorties.
Oui, ils y vont quand même.
Eh ben ça va. À Cannes toujours meilleure compétition, il y avait Tralala des frères Arnaud et Jean-Marie Larrieux. D'ailleurs, pourquoi hors compétition? Je ne comprends pas très bien. Une comédie musicale dans l'esprit de Jacques Demy avec Mathieu Amalric, Mélanie Thierry, Josiane Balasco, Maïwenn, Denis Lavant, Jalil Lespère et même le chanteur Bertrand Belin. Et surtout, il n'y a pas Léa Seydoux dedans. Il n'y a pas Léa Seydoux.
Oui, mais il y a tous les autres.
Problème d'agenda, elle ne pouvait pas.
Tralala, le surnom de Mathieu Amalric, guitariste de rue en voie de devenir un clochard, hein, qui flash sur le parvis de la gare Montparnasse sur une fille bleue, c'est Galatea Bellucci, qui lui dit « Surtout, ne soyez pas vous-même » et qu'il prend aussitôt pour une apparition mariale. Il se rend alors à Lourdes, qui est d'ailleurs, je le rappelle, la ville natale des Larrieux, où une femme, c'est Josiane Balasco, le prend pour son fils, Patrick, disparu 20 ans plus tôt aux États-Unis. Et seule son ex, qui est Mélanie Thierry, C'est bien qu'il n'est pas Patrick, mais Tralala accepte le rôle et se découvre à la fois une nouvelle famille et même du génie musical. Les compositeurs des chansons sont Philippe Catherine, Étienne Dao, Dominica, Jeanne Chéral, Kerenan. Voilà, vous me dites, soyez vous-même, hein, vous me dites ce que vous pensez de Tralala, Eric.
Ah, c'est un film qui fait du bien. Ça fait tellement de bien quand ça s'arrête. C'est épouvantable.
C'est surprise.
J'ai eu peur.
Ah non, mais
c'est quelque chose qui va pas là.
Là, on se pince. Je préfère revoir trois fois James Bond plutôt qu'une demi-heure de celui-là.
Sérieux?
Ah, mais sérieusement, c'est. Non, mais les frères Larieux plus la comédie musicale, c'est la double peine pour moi, là. Et c'est quand même une sorte d'exploit parce que c'est le plus mauvais film des frères Larieux. Imaginez ce que ça peut donner. Ils ont jamais réussi un truc. Et là, on a droit. Toutes les chansons sont nulles. Ils chantent comme des patates. Ils dansent comme des manches à balai. Il y a un truc à sauver, c'est Lourdes. Lourdes, que je ne connais pas, a l'air d'être une ville épatante, colorée, vivante, pleine de bonnes sœurs marrantes. Mais c'est effrayant tout ce qui se passe là-dedans. Le pauvre, ah, avec son petit banjo à l'effigie de la Vierge. Heureusement, dès qu'il arrive à Lourdes, il y a Denis Lavant qui passe et qui jette sa guitare dans le fleuve. Dans le gave de Pau, parce que moi je me suis renseigné sur Lourdes. Je veux plus me renseigner sur les frères Larieux, mais sur Lourdes je serai bientôt incollable. Et je crois que ces deux gars sont vraiment une imposture aussi grande que la grotte de l'endroit. C'est que faudrait qu'ils aillent dedans. Il y aura peut-être un miracle un jour, ils feront un film regardable. Non, parce que c'est vraiment la fantaisie lourdingue, la poésie à la petite semaine. Alors les chansons, mais alors moi je pensais que c'était eux qui les avaient écrites et musiquées. Mais c'est des vrais musiciens, des vrais chanteurs. Heureusement, ils ont préféré laisser ça aux autres en se disant « Je veux pas qu'on sache que c'est moi ». Ah non, il nous reste aucun air en tête.
Je suis sans voix. Xavier.
Ben moi, j'aime beaucoup ça, alors que je ne suis vraiment pas, mais vraiment pas, un fan des frères Larieux. Hein. Je me souviens de « Peindre ou faire l'amour ». Pascal Mérigeot, en sortant de la projection, avait dit « Je vais faire l'amour hein, ». Voilà, comme ça, au moins, on va choisir son camp. Et là, je dois avouer, j'y allais vraiment un peu à reculons, c'est une fantaisie à la fois solaire et crépusculaire que je trouve complètement réussie, complètement assumée. J'aime énormément cette histoire de fils prodigue, reconnu, qui ne détrompe pas sa mère. Bon, en tout cas, ça suffit.
C'est théorème pour les nuls, hein, quand même.
C'est à nous, Youssef.
Oui, enfin bon, ça, on parlera. Alors, là où tu as raison, c'est Lourdes, mais c'est un Lourdes de pandémie, donc c'est pas un Lourdes joyeux. Je sais pas où est-ce que tu as vu.
Ah, si, moi j'ai trouvé très attrayant.
Non.
Bah, il fallait bien que je me raccroche à quelque chose.
Un peu,
j'ai même noté le nom des hôtels.
Un peu sépulcral, dans lequel s'épanouit cette comédie musicale qui est très étranglée dans la mélancolie, mais qui, je trouve, a des moments absolument magnifiques. Ils réussissent pas tout, certaines chorégraphies, dont une dans la boîte de nuit, ne fonctionnent qu'à moitié. Mais je trouve que...
Il y a une scène très gênante. C'est faire danser des trisomiques devant Mathieu Amalric qui joue de la guitare, c'est quand même limite. Hein.
Ça, je peux t'accorder cette petite faute de goût. Mais néanmoins, je trouve que le film nous embarque vraiment dans sa mélopée qui, encore une fois, est portée... Mais elle est très à l'image, en fait, de Mathieu Amalric. Elle a un petit côté céleste.
C'est vache.
Clochard a un tout petit peu perdu. Oh ben non, pour moi, c'est un vrai compliment. Donc, risquez-y vous, parce que je trouve que, voilà, c'est une comédie musicale, mais pas que.
Pierre.
Oui, je suis plutôt pas d'accord avec Xavier, d'accord avec toi, Eric.
Désolé.
Soyons clairs, je suis un peu incompétent sur les Larieux.
Ton journal exalte.
Oui. Mais j'ai lu le papier de Metodicino qui le défend admirablement bien.
Elle te fait chanter, alors.
Je veux bien chanter, moi, avec Guillemette, mais ça, c'est le problème n'est pas là. Non, je suis incompétent devant les Larieux parce que vraiment, Peindre ou faire l'amour, ça m'avait fait rire. Dernier jour du monde, ça m'avait terrifié. 21 minutes nuit avec Patty, ça m'avait exaspéré. Donc, c'est pas que je sois pas objectif. Je ne fais pas partie de leur univers, ils ne font pas partie de mon univers. Alors voilà, il y a deux petites scènes qui sont bien à mon avis. C'est au moment où Mélanie Thierry essaie de chanter et de danser dans une boutique couverte de
Sainte Vierge avec ça.
De Sainte Vierge, voilà. Là. Ça rappelle un petit peu l'univers kitsch, poétique de Jacques Demy, c'est vrai. Là, oui, on retrouve. Ça peut être une
dont il se réclame, je dirais officiellement presque. Hein,
mais là, vraiment, c'est sensible et réussi. Et puis quand Bertrand Belin chante, parce que brusquement, il a une voix.
C'est un grand chanteur, Bertrand Belin.
Oui, voilà, justement, il a une voix, c'est un chanteur, il a une présence, et brusquement, tout s'éclaire. Le reste, lui est vraiment très bien, le reste est quand même pas très bon.
Sophie.
Moi, c'est pas mon univers, et pourtant, ça m'embarque complètement. Donc, je suis complètement de l'avis de Xavier. Je trouve que c'est un film qui est perché, qui est complètement fantaisiste, c'est vrai, qui est complètement... Mais c'est justement une apologie de ça, c'est une apologie de la fiction, c'est une apologie de la liberté, c'est... On sait jamais ce qui va arriver, on a l'impression que le film est en train de se faire sous nos yeux, et moi j'adore ça.
C'est long, hein, comme tu dirais.
C'est long, ce mantra, qui devrait te plaire d'ailleurs, Eric, qui va contre tout ce que la société nous pousse à faire, c'est-à-dire de soyez surtout pas vous-même, rien que ça c'est génial, parce que ça veut dire quoi ne soyez pas vous-même? Ça veut dire s'amuser, ça veut dire essayer de sortir de soi, de se déguiser, ça veut dire essayer de se réinventer.
C'est l'anti-Cocteau, quoi.
Mais non, mais c'est... Enfin, tu vois, dans une époque où on nous serine avec « soyez vous-même, accomplissez-vous », etc., on a un truc complètement perché, qui va complètement de l'autre côté du truc. C'est un film qui est perché, mais qui est très mélancolique, et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, parce que c'est aussi un film sur les années perdues. C'est aussi un film là-dessus. Et alors, la révélation...
2 heures de perdu, déjà.
Non, le film est plus intéressant que ça, même si au début j'ai eu du mal, mais je me suis laissée embarquer, parce que c'est vraiment un film d'enchantement. C'est un film pour réenchanter. Franchement, je trouve que le film vaut le détour, mais il faut savoir que c'est perché.
Tralala, des frères Larieux. Toujours à Cannes, mais en sélection officielle, il y avait Les Intranquilles de Joachim Lafosse. Le film s'ouvre par une scène à la fois idyllique et très inquiétante, puisque Damien, c'est joué par Damien Bonnard, pilote un bateau à moteur sur la Méditerranée, puis soudain il coupe le moteur, il plonge, après avoir demandé à son fils, mais son fils, il a 10 ans, hein, c'est Amine, de ramener le bateau. Et depuis la crique, Leïla, c'est Leïla Bekti, observe évidemment la scène avec effarement, et très vite on comprend que Damien, qui est peintre, dans un très beau décor, hein, qui est peintre, est maniaco-dépressif, et qu'il va passer dans ce décor de rêve constamment de l'exaltation à la prostration. Il est capable, par exemple, de débarquer dans la classe de son fils, les bras chargés de viennoiseries, et d'ordonner aux enfants d'aller prendre l'air. Et puis il disparaît des nuits entières, il réapparaît à l'aube, complètement hébété, sans avoir pris son lithium. Alors c'est un film, évidemment, sur la bipolarité. D'ailleurs, Lafosse a beaucoup dit et expliqué que son père était atteint de cette pathologie. Mais c'est surtout, je trouve, sur la manière dont l'entourage est contaminé par ce drame, avec un Damien Bonnard que j'ai trouvé absolument bouleversant, à la fois dans ce rôle de maniaco-dépressif, mais aussi dans sa manière, par exemple, quand il peint, il agresse, on a l'impression qu'il agresse la toile, que c'est devenu une opération presque physique. Voilà, donc c'est un film, si vous voulez en dire du mal, vous vous taisez, parce que je le trouve vraiment très, très poignant. Sophie.
Ah, je suis d'accord avec toi, c'est un film magnifique, c'est un film bouleversant, et en plus, ample, hein, il est, parce que vraiment, Joachim Lafosse est quelqu'un qui est un maître dans l'art de montrer dans l'intimité, comment les rapports se fissurent, l'économie du couple, enfin tous les films qu'il a fait jusqu'à présent étaient intimes et celui-là aussi, et pourtant il y a une vraie ampleur parce qu'il arrive à un degré d'intensité d'émotion et de justesse qui est absolument incroyable. Tu as fait un résumé très riche et en même temps cette trame, c'est vrai qu'elle est simple, hein, finalement. Ce qui rajoute quelque chose, c'est que cette maladie, comme il est artiste, évidemment il a peur que cette maladie, que s'il est guéri, il ne puisse pas être inspiré de la même manière, et ça biaise les choses, et du coup c'est pour ça qu'effectivement, il renonce. Parfois, il ne veut pas se soigner. Mais il y a cette particularité de la maladie.
Le père de Lafosse était photographe,
oui,
d'œuvres d'art.
Et sans doute que lui, enfant, a observé ça, le côté un peu récalcitrant de celui qui ne veut pas se soigner parce qu'il a peur que ça atteigne à son inspiration. Mais si on enlève ça, qui est une partie importante, mais ça pourrait être autre chose qu'une maladie. Et ce que je veux dire, c'est que le film est très universel. Parce qu'on a l'impression avec la bipolarité que c'est quelque chose de très particulier, qu'on va nous raconter une histoire très singulière. Elle est personnelle, elle est singulière, évidemment. Mais elle est universelle. C'est... comment un couple résiste aux obstacles, tout simplement. Et c'est vrai...
Il y a même une petite famille, parce qu'il y a ce fils...
Et le petit garçon qui observe et qui est évidemment le futur Joachim Lafosse, j'imagine. Enfin, voilà. C'est son histoire.
Mais qui est aussi la victime de ce que...
Bien sûr, de tout ce que tu disais sur le fait que ça contamine tout le monde. D'ailleurs, les choses se basculent et c'est elle qui finit par perdre la boule, quoi. Et quand même, je voudrais dire à nouveau à quel point Damien Bonnard, il est formidable.
Parce qu'il est incroyable.
Par moments, il a l'air égaré, et à d'autres moments, on lui donnerait le bon Dieu son confession, il a l'air presque ordinaire. Et là, il a Bekti, elle m'a bluffé, elle est d'une justesse, mais incroyable.
Elle est arrondie.
Oui, elle dit d'ailleurs que t'as vu, je suis devenue grosse à cause de toi. Et
pour le protéger,
franchement,
pour l'entourer.
Le film est magnifique et bouleversant.
Pierre.
Ah oui, moi je trouve que c'est un film formidable. Et je voudrais juste insister sur la mise en scène, parce que Joachim Lafosse, il a fait Élève libre sur l'éducation sexuelle d'un gamin qui pourrait plus refaire aujourd'hui parce que c'est un film trop mal pensant, À perdre la raison sur une matricide, L'économie du couple, où il allait à l'os, comme tu as dit, c'est-à-dire que c'est vraiment, il est toujours, on est toujours avec lui à la frontière de la déraison, et justement il crée avec ça des suspens absolument formidables. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé, c'est que il semble un peu comme Hitchcock, toute proportion gardée, étirer le temps, c'est-à-dire qu'on sait que ça va arriver, on sait qu'il va rechuter, et même dans le quand tout est calme, tout est bien, on est en attente de ce qui va se passer et comment ça va se passer.
Il y a cette scène incroyable, et... par exemple, où il fait poser et sa femme, Léla Becti, et son père, en leur demandant de ne pas bouger, et on se demande effectivement ce qui va se passer.
Ce qui va se passer,
c'est ce qui donne l'ampleur.
Assez rare dans le cinéma actuel de réussir à ce point à montrer comment le danger rôde sans que ça soit un danger. Et je suis d'accord avec vous, Damien Bonnard aurait peut-être pu remporter le prix d'interprétation à Cannes tellement il est bien.
Xavier.
Il aurait dû même. Oui. Moi, je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année à Cannes et qui me hante encore. Je l'avais vu quelques jours avant de partir.
Ah oui.
Et pour moi, c'est le meilleur Lafosse. Alors, Pierre a cité effectivement les films moteurs de Joachim Lafosse, mais je trouve que jusque-là, même s'il était extrêmement intéressant, il n'y avait pas cette quasi-perfection de la mise en scène qui épouse le regard de l'enfant qui est en train de grandir, qui inclut celui de l'époux sur son mari, parce que c'est pas un film sur la sémiologie de la bipolarité, une famille qui découvre. C'est installé, nous le découvrons nous bien après les protagonistes, qui sont l'épouse, le père de Damien Bonnard et son fils. C'est un film sur à quel moment, puisqu'ils vivent avec la maladie de l'homme qu'ils aiment, à quel moment on décèle les prémices de la crise, et à quel moment on se donne le droit d'intervenir. Trop tôt, c'est le condamner dans sa maladie. Trop tard, c'est malheureusement prendre le risque, effectivement, qu'il faille l'interner, qu'il faille l'emmener à l'hôpital. Donc le film se répète, parce qu'effectivement...
Et comment le contraindre à prendre un médicament qu'il ne veut pas prendre?
Mais voilà, c'est ça.
Il se répète, mais c'est jamais pareil.
Mais ça n'est jamais pareil. Voilà. C'est là où la mise en scène est absolument somptueuse. C'est-à-dire que c'est vraiment, on épouse le regard intranquille, et quel titre sublime, vraiment, de ces gens qui n'en ont pas marre, qui pourraient l'avoir foutu dehors, qui pourraient en être débarrassés, qui continuent de l'aimer. Et c'est juste, on est là, dans cette tension, et tu as parlé de suspense, et c'est exactement ça. C'est-à-dire, à quel moment on va pouvoir intervenir pour essayer de le protéger et de l'aimer et de ne pas le condamner comme le malade qu'il n'est pas, entre guillemets. Et c'est, mais, extraordinaire. Vraiment un grand, grand film.
Eric.
Eh ben tant mieux. Alors ça.
Alors passons au suivant.
Tu as dit qu'il fallait se taire si on n'adorait pas ce film. Alors je me tais. Non, mais.
Allez, parle.
D'abord, j'ai cru que c'était un hommage à Pessoa, l'intranquille. Et très vite, je me suis aperçu que c'était un clin d'œil ou même une adaptation du livre de Gérard Garouste, qui est atteint de cette maladie et qui est peintre lui aussi, qui est un très très bon livre. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ces gens-là ont commencé à me casser les pieds. J'ai trouvé ça répétitif. Je suis pas fanatique du tout de Damien Bonnard, qui pour moi est un acteur qui n'attire aucune empathie, un peu comme Dupontel. Le film n'arrive pas à faire, puisque même dans cette situation, même les gens qui aiment le malade finissent par ne plus le supporter. Comment
c'est
voulez-vous que nous qui ne les... Ah bah si.
C'est pas vrai.
Non, c'est pour eux.
La femme, le père sont au contraire jusqu'au bout compassionnels.
Compassionnels, oui, mais enfin, c'est quand même compliqué pour eux. Elle a pris 15 kilos en 2 ans. Lui, il veut pas prendre son médicament. Et d'ailleurs, le cinéma, c'est un peu comme le lithium. C'est une question de dosage. Et là, j'ai trouvé que le film
aurait
dû avoir un meilleur médecin. Alors que j'aimais beaucoup le précédent film sur le couple, l'économie du couple, qui était beaucoup plus profond, beaucoup plus accessible et moins prétentieux que celui-là.
Les Intranquilles, c'est Joachim Lafosse, Eugénie Grandet. On va aller un peu vite, si vous voulez bien, sinon on ne pourra pas tout évoquer. C'est 3 semaines avant Illusion perdue, version Xavier Giannelli. L'adaptation du roman de Balzac par l'écrivain-réalisateur Marc Duguin, où Olivier Gourmet endosse les habits et surtout l'avarice pathologique de Félix Grandet, ancien maire et tonnelier de Saumur. Grandet est très riche, mais il fait semblant d'être très pauvre. Et avec sa femme, qui est jouée par Valérie Bonneton, et leur fille Eugénie, incarnée par Joséphine Japy, il habite une maison très triste, où même le garde-manger est fermé à clé, comme chez Xavier. Et voici que débarque de Paris un joli cousin parisien, Charles, c'est César Domboy, qui fait chavirer Eugénie, mais que le père Grandet, apprenant que, évidemment que son neveu est ruiné, va chasser de chez lui. La lumière, elle est très belle, elle est soyeuse, flamande. Il faut dire qu'elle est signée Gilles Porte. Et le film est fidèle, avec une fin différente, hein, est fidèle au roman, et il appuie là où ça fait mal, la toute-puissance du patriarcat, en préfigurant le féminisme de demain. Eric?
Bah justement, je suis pas sûr que le patriarcat était le sujet principal de Balzac, qui s'en foutait complètement. C'est un peu triché avec le roman, mais le film est tout à fait honorable. Hein. Le problème, c'est que Olivier Gourmet se prend un peu trop pour le père Grandet, à moins que ce ne soit l'inverse. Il en fait c'est un peu le Léa Seydoux masculin, lui. Il y a pas un.
Ça, moi, je peux tout penser, mais ça, j'arrive pas à voir Olivier Gourmet en Léa Seydoux.
Et le film se passe très souvent dans le noir au moment du dîner, et c'est tellement beau que, hélas, on pense souvent à la publicité pour la laitière et ça gâche un peu le plaisir. Mais c'est tout à fait digne d'être...
Sophie...
La grande intelligence du film et de Marc Dugain, c'est d'avoir finalement érigé la budicité du budget en principe de mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a une économie générale, il y a une économie de la lumière, il y a une économie des couleurs, il y a une économie des gestes, des mots, il y a même une économie de l'oxygène, hein. Il n'y a pas d'air dans cette maison. Hein. Tout est à l'image de la maison Grandet où il manque de tout. Et face à cette privation générale, il y a... tout à coup, cette jeune fille dont le cœur est subi l'abondant et la proie de l'abondance, le tumulte des sentiments, des émotions, etc., et du don de soi et de la générosité. Et là où le film est très beau, c'est que il va vers un bras de fer, un corps à corps quasiment, un duel entre l'avarice de ce père et la générosité, le don de soi de cette jeune fille qui, sans jamais lever la voix, lutte contre lui. Et ce duel entre les deux donne toute la tension du film. Et en effet, Joséphine Japy, elle est formidable.
Xavier.
Autre film sec de la soirée, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup dans la mise en scène de Marc Dugain, même si j'ai des réserves, c'est que vraiment, il n'y a pas un pet de gras, quoi. Il y va, le montage est cut. Donc, il y a vraiment quelque chose d'austère dans la mise en scène qui va très bien à l'austérité, effectivement, du père Grandet. Je lui reprocherai justement 2-3 fondus sur des répliques un peu plus importantes et insistantes dans la narration qui, voilà, souligne un petit peu les choses. Et une grammaire parfois un peu sommaire, c'est-à-dire qu'il filme plein cadre et face à face dans les yeux le personnage de Génie, et souvent en contre-plongée pour accentuer sa médiocrité et sa méchanceté, le personnage du père. Donc voilà, il faudrait qu'il sorte un tout petit peu de ce côté sommaire. Il n'y a pas de musique. Et en tout cas, voilà, c'est un vrai parti pris. Et c'est pas un film poussiéreux du tout, contrairement à ce que l'affiche, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, pourrait le laisser craindre.
Pierre.
C'est un film poussiéreux. J'ai entendu dire partout que c'était une suite de tableaux flamands. Mais depuis quand une suite de tableaux flamands fait un film? Une suite de tableaux flamands, ça fait une suite de tableaux flamands. Voilà. Et donc, c'est très, très bien interprété. Mais alors, en plus, c'est une trahison absolue. Parce que moi, je veux bien qu'on modernise tout et tout. Mais Eugénie Grandet, c'est pas du tout une femme qui se révolte et qui est une femme féministe d'aujourd'hui. Mais pas du tout, du tout, du tout. Elle poursuit l'œuvre de son père, en quelque sorte. Elle est généreuse avec les autres, c'est vrai, mais elle devient aussi avare que lui. La trahison de Marc Dugain est là. Alors, autrement dit, si vous aimez Balzac, dans 3 semaines, les illusions perdues, hein. Mise en scène de Giannoli, dont certains plans se rappellent Max Ophuls, alacrité, méchanceté, tandis que là, c'est vraiment très mou.
Eugénie Grandet de Marc Dugain, vite aussi sur cette musique, ne joue pour personne, de Samuel Benchitrit avec François Damiens, Ramzi Media, Vanessa Paradis, c'est du Benchitrit, c'est-à-dire foutrac, et évidemment un peu irrésumable. On est dans une ville portuaire qui ressemble à Dunkerque, je ne sais pas si c'est Dunkerque, où une bande de dockers truands et vieillissants découvrent les vertus de la poésie. Alors le chef de bande, c'est François Damiens, qui se met à la poésie pour séduire une caissière. Il y a Jésus et Poussin, c'est Joe Starr et Bouly Lanners qui doivent organiser une boum pour la fille de leur chef et faire venir de force des ados. Jackie, c'est Gustave Kervern qui débarque avec une hache chez Suzanne, qui est Vanessa Paradis, une veuve. Enfin, veuve, elle a tué son mari, hein. Une veuve qui est bègue.
Veuve quand même.
Et qui veut absolument incarner sur scène son idole, qui est Simone de Beauvoir. Voilà, il faut compter aussi, parce que c'est très riche comme distribution, avec Valéria Brunet-Tedeschi, Vincent Macken, Bruno Podalides, et je rappelle qu'au même moment, Vanessa Paradis joue maman du même Samuel Benchitrit, son compagnon au théâtre Édouard VII. Pierre?
Eh ben, je trouve ça plutôt bien. J'aime pas tout à fait l'univers de Samuel Benchitrit, mais là, je trouve que pour une fois, les excentriques, les excentrés qu'il montre sont plutôt intéressant. J'aime beaucoup le personnage de François Damiens, je le trouve formidable. L'autre qui semble sorti d'un film de Woody Allen, Coup de feu sur Broadway, parce que c'est ça, il a du talent, tandis que les autres n'en ont pas. Je trouve ça plutôt bien. Et Vanessa Paradis, que j'ai vue au théâtre d'un maman, elle est superbe. Et là, en Simone de Beauvoir, elle est très très intéressante.
Elle est très bien dans le film, c'est vrai.
Elle est très bien et je trouve que c'est un petit film à peu près réussi. Voilà, c'est tout, c'est pas un chef-d'œuvre.
Éric.
Eh ben d'accord avec Pierre, ouais, c'est un des bons Ben Chetrit, ça n'est pas souvent le cas. Non, il y a un univers, il y a quelque chose entre Blier et Mocky, l'image est bâclée, les acteurs font ce qu'ils veulent, mais il y a un univers et puis il y a surtout Vanessa Paradis, très très marrante, en Simone de Beauvoir sur scène bègue, là, ils essayent de montrer une pièce sur Sartre et le Castor.
Une comédie musicale.
Tous ces bras cassés, c'est mieux que chez les Larieux. Ouais. Non, puis Damien, là, qui veut écrire des poèmes et qui ne sait pas ce que veut dire Amaryllis, ça c'est trouvaille. Et il y a une scène récurrente où on le voit au bord de la mer sur des rochers avec un sac poubelle qui s'envole. Et c'est presque poétique tout d'un coup dans cet univers de containers et de trucs de merguez sur les barbecues.
Xavier.
Non, mais j'ai l'impression de regarder le Muppet Show avec les deux petits vieux, là, qui sont contre.
Non, mais dis donc, toi, enfin.
De tout. Il faut quand même dire une chose, c'est que c'est un film à sketch qui n'ose pas avouer que c'est un film à sketch.
Il a toujours fait ça, oui.
C'est cousu quand même avec de l'énorme ficelle, ça ne tient pas un instant le scénario, mais s'écroule au bout de 5 minutes. Ah, bah, donc, c'est génial que le scénario s'écroule maintenant. D'accord, ok, Pierre, j'ai pas tout suivi de la soirée et des conversations que nous avons eues.
Dans ce cas-là.
Les personnages sont écrits à la truelle. Ah, génial. Elle a tué son mari, elle est bègue, et quand elle monte sur scène pour chanter Simone de Beauvoir, elle est plus bègue.
Ah, mais ça, tous les acteurs.
Quand même. Non, tous les acteurs sont pas bègues. J'en ai interviewé quelques-uns, il y en a qui se
parlent. Non, mais non,
en revanche, il y a un regard sur la classe prolétaire du Nord. C'est horrible, la caricature de la mère au foyer, Valéria Brunet.
Ils sont tendres, gentils, poétiques, amusants.
Pas du tout. Habillés de façon très vulgaire avec un haut panthère qui regarde des émissions sur Énergie 12, genre les anges de l'intéralité.
Mais c'est la vie.
Les Marseillais.
Je regarde aussi Énergie 12.
C'est pas possible d'avoir ce regard-là. Il est absolument condescendant, voire méprisant. Alors je sais qu'il en vient, mais il faut qu'il fasse une thérapie et pas un film.
Sophie.
Pour moi, c'est un tout petit film qui a un tout petit charme. Voilà. Je dois dire que voir François Damiens et Ramzy dans la voiture, alors que c'est des gros durs, écouter des chansons d'amour, et notamment « J'ai le cœur grenadine » de Woolsey, c'est assez drôle. Le problème du...
Ça fait pas un film, ce film.
Exactement. C'est vrai que le film s'effondre très vite, et là, je suis absolument d'accord avec Xavier. Ça, c'est filoche, quoi. Tout ça, c'est filoche. Et je soupçonne le film d'être extrêmement paresseux. En effet, avec un regard un peu condescendant sur ce milieu-là. Et surtout, comme ça se répète et que ça devient ennuyeux, ça devient assez insignifiant et le petit charme s'effiloche et s'évapore.
C'est donc cette musique ne joue pour personne, en tout cas pour moi, de Samuel Benchetrit. Nos critiques de théâtre au début du dernier masque n'ont pas été tendres pour le Guermant de Christophe Honoré, qui est ce film, vous savez, improvisé pendant qu'il répétait à la Comédie Française, le côté de Guermant. Est-ce que vous le conseillez plutôt ou pas, mais vraiment très rapidement?
Ah oui, moi je trouve que c'est un très... Enfin, tu me donnes la parole.
Oui, bien sûr, oui. C'est un tour de table rapide.
Alors je trouve ça magnifique. Il arrive à la fois à parler de Proust, de son adaptation du théâtre, de la pandémie, à le nez sur la pandémie sans recul. Mais il arrive à en tirer quelque chose de fondamental, que ce que cette pandémie dit de notre humanité, c'est-à-dire que nous sommes des êtres de transmission. Et tout le film pour moi est un film sur la transmission et je trouve ça absolument magnifique. C'est jamais cérébral, c'est au contraire d'une légèreté, c'est gracieux, c'est drôle, c'est intelligent, c'est élégant. C'est vraiment un film que je recommande absolument.
C'est une petite merveille, Xavier. Moi, comme toi, j'aime énormément ce film. C'est un film de transmission, c'est un film d'héritage avec Proust effectivement, mais le théâtre aussi. C'est un film sur
Cat Stevens,
absolument, puisque ça s'ouvre sur My Lady d'Arbanville. C'est un merveilleux film sur les acteurs et les actrices. Il y a parmi ceux que j'aime Elsa Le Poivre de la Comédie Française,
toute française,
comédienne sublime, Dominique Blanc. Je retrouve à Laurent Lafitte grandiose. Je trouve que c'est intelligent, pétillant, mélancolique, sombre. Il y a une scène dans la nuit avec les fantômes du théâtre. Moi, ça me bouleverse et ça me fascine. J'adore ça.
Eric.
Qu'est-ce qu'on est drôle, comme on est sensible, comme nous sommes intelligents. Mais vous êtes surtout imbuvables, les gars et les filles. C'est terrible, ces gens-là.
C'est drôle.
C'est pas drôle
du tout.
Mais
oui, c'est drôle.
Tu disais que ça se passait pendant la pandémie et que c'était une histoire de transmission. Mais il y a le Covid et ces gens-là ne pensent qu'à eux, à leur petit nombril, à leur petite pièce, à leur petite connerie. C'est terrible. Je ne mettrai plus jamais les pieds à la Comédie française à cause de ce film. Il y a une scène à sauver.
Tu vas jamais au théâtre.
Je ne vais jamais. Ça va pas me changer.
Éric, ils travaillent.
Ah non. C'est narcissique.
Pas du tout.
Prétentieux.
Ils veulent travailler. Ils répètent.
C'est l'argument des critiques de théâtre.
Eh ben, si même les critiques de théâtre le disent.
Pierre,
c'est un peu long. C'est vrai. C'est un peu long. C'est un peu long.
Surtout vers le début.
Non. C'est un peu long vers la fin, justement, comme dirait l'autre. Mais je trouve ça très intéressant parce que ce qui pose comme question, c'est qu'est-ce que font les acteurs quand ils ne jouent pas? Eh ben, ils jouent. C'est ça, il les fait jouer. Et c'est formidable. Et ça rappelle un petit peu la morale de Jean Renoir dans Le Carrosse d'Or.
Oui,
c'est où finit la vie, où commence le théâtre. Et il le fait très bien.
Les conseils, Sophie.
Alors moi j'ai deux conseils. Un dessin animé qui est un très beau film d'animation pour les enfants à partir de 12 ans qui est en ce moment à l'affiche de Florence Miaillé et coécrit par Marie Desplechin. C'est des peintures et c'est vraiment très beau. Et un documentaire qui est un petit bijou qui s'appelle L'heure Algérie, qui est le film de Lynn Soualem, la fille de Zinedine Soualem, l'acteur fétiche de Cédric Clapiche. Elle va interroger ses grands-parents, qui sont des travailleurs algériens qui sont venus dans les années 60 en France. Et c'est à la fois poignant, drôle, et vraiment, c'est un petit bijou.
Xavier.
Je partage complètement les conseils de Sophie. Le mien, ce sera After Love, d'Alim Khan, qui est un premier film britannique que je trouve absolument mais magnifique.
Un scénario un peu attendu parfois.
Oui, mais porté par deux comédiennes, dont la géniale Nathalie Richard. Ça, comment le cinéma français peut-il faire l'économie d'une comédienne aussi brillante que ça? C'est l'histoire d'une femme qui habite en Angleterre, qui est mariée à un homme qui va décéder. Pour lui, elle a pris le voile. Et elle découvre qu'il y a peut-être une autre vie, une autre existence, une double vie
en France,
et elle va donc traverser la Manche et, par des biais un peu détournés mais très bouleversants, s'approcher de la deuxième épouse de l'homme qu'elle a aimé.
La scène de la rencontre des deux est absolument...
Ah, c'est super, parce qu'en même temps, ça réfléchit sur les clichés, effectivement. Nathalie Richard ouvre la porte et fait « Ah, vous venez pour le ménage ?»
Alors, voilà,
parce qu'elle a un voile et qu'elle est un peu hachée. Et je trouve ça très juste.
Mon conseil, si vous aimez le théâtre, contrairement à Eric, c'est Petite Sœur des Suissesses, Stéphanie Chua et Véronique Raymond, avec une distribution digne des meilleures scènes berlinoises, puisqu'il y a Nina Haus, Lars Eidinger, Marthe Keller, sans compter dans son propre rôle, le metteur en scène, le fameux de La Schaubühne, qui est Thomas Ostermeyer, et c'est l'histoire d'un comédien allemand atteint d'une leucémie qui veut reprendre son rôle d'Hamlet et qui va être soutenu par sa sœur jumelle jusqu'au bout. Moi, j'ai trouvé ça très beau et évidemment poignant, ses petites sœurs. Je crois que je ne vais pas être le seul d'ailleurs à le conseiller, non?
Oui, ça rejoint un peu Guermantes de Christophe Honoré, d'une certaine façon. C'est qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus jouer? Il veut jouer Hamlet pour la dernière fois, le parfaire, l'embraser une dernière fois, et sa sœur est là pour l'aider, avec une mère totalement inconsciente que joue Marthe Keller. Nina Haus est magnifique, Lars Eidinger est super.
Et tu sais qu'il a joué le rôle d'Hamlet chez Thomas Ostermeyer.
Oui, voilà, c'est ça. Et je trouve ça, mais touchant, mais plus que touchant. Je trouve ça tragique et bouleversant. Je trouve ça vraiment très fort comme film.
Petite sœur, donc, de Stéphanie Chua et Véronique Raymond. Le conseil, enfin, d'Éric.
La biographie de Chabrol par Antoine Debecq chez Stock, qui est un livre formidable. Debecq a fait un boulot incroyable. Il y a tout dans ce livre. Et ce Chabrol était un sujet en or pour lui. C'était un type qui se prenait absolument pas au sérieux, qui a tourné 57 films, des chefs-d'œuvre, des nanars absolus, mais il savait à chaque fois ce qu'il faisait. Et à un moment donné, dans les années 70, un producteur vient lui proposer de tourner un meurtre qui se passerait dans un camp de nudistes. Et Chabrol lui a répondu « Formidable, tout le monde va se demander où est passée l'arme du crime
». Le Chabrol de Beck, c'est chez Stock.
Chez Stock, hein. Oui.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Sophie Avon, Xavier Le Herpeur, Pierre Murat et malgré tout Éric Neuf pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sélam et ce soir au Théâtre de l'Alliance Française. À la technique, il y avait, et je les remercie, Julie Garraud, Romain Lenoir, Titouan Oex,
et la réalisation était de Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu le 21 octobre à partir de 19h au Théâtre de l'Alliance Française 101, boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au film. Dans une semaine, on parlera de littérature. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment. Et après le journal, vous retrouvez Stéphanie Duncan pour Autant en emporte l'histoire.